SBS Radio.
Jean-Marie Tjibaou, pour que sa vision demeure. On dit que la femme est l'avenir de l'homme. Elle peut aussi être celle qui prolonge sa pensée, collabore à sa mission et devienne son maître d'œuvre. C'est ainsi que Marie-Claude Tjibaou conçoit ce parcours à deux qu'elle continue toute seule. Mais revenons à la pensée de ce chef indépendantiste, Jean-Marie Tjibaou. C'est après une longue réflexion sur le problème d'identité chez les colonisés que Jean-Marie Tjibaou a progressivement élaboré une démarche de reconstruction de la mémoire collective. Alors, il a organisé Mélanésia 2000.
En 1975, Mélanésia 2000 en Nouvelle-Calédonie, Jean-Marie Tjibaou organise ce festival un petit peu pour parce qu'il y a une situation, la colonisation, le peuple Kanak qui est déprimé, qui s'enfonce dans l'alcool et donc il y a nécessité de créer un événement qui mobilise le peuple. Donc Mélanésia 2000 en fait c'est une quête d'identité, c'est un peuple qui prend conscience qu'il a une culture qui lui est spécifique. Certes, il est français parce qu'il est à la colonisation, mais promotion, valorisation de la culture, le patrimoine qui est disséqué et que l'on remet pendant une semaine à l'hôtel, donc dans la ville, par le biais d'une grande manifestation, Mélanésia 2000.
Au départ, c'était Jean-Marie lui-même.
Voilà. Donc pendant une semaine, des danses, des chants, les généalogies, l'expression d'une culture bien vivante, de l'artisanat, de la culture. Et puis là, d'abord pour le peuple Kanak, une prise de conscience, une identité, mais aussi pour les autres, donc les non-Kanaks du territoire, la première fois une grande manifestation Kanak dans la ville. Ils prennent conscience qu'il y a un peuple et donc c'est une découverte.
Souviens-toi de ces grands hommes qui ont combattu pour nos droits légitimes et qui sont tombés durant leur lutte.
Jean-Marie Tjibaou a écrit et exprimé ses pensées.
La relation à la terre, à la parole créatrice et à la mémoire généalogique semble constituer un ancrage commun aux Kanak et aux descendants d'Abraham. Les arcanes de l'individualité Kanak, l'expérience que chacun peut avoir des ancêtres, des cérémonies coutumières, de l'espace et du temps. Le colonialisme rend les colonisés étrangers à eux-mêmes. Au cœur de sa réflexion, un homme fortement ancré dans son héritage et en même temps tourner vers l'avenir.
a eu ce réveil, cette redécouverte de Kanaka. Il ne s'agissait pas de revenir au passé, il fallait concevoir l'avenir et trouver son équilibre avec la culture européenne.
Et puis, il y a eu les événements, la fracture, la confrontation et la disparition de Jean-Marie Tjibaou. Et ce centre pour que vive sa vision.
Ce réveil de la population kanak, en même temps, pour Jean-Marie Tjibaou, c'est la revendication du peuple kanak, son droit inné et actif à son indépendance, qui est reconnu donc à Nainville-les-Roches. Et puis, la suite, on la connaît, quoi, les bouleversements, parce que la Nouvelle-Calédonie étant toujours terre française, les vagues viennent jusqu'à nous et je pense qu'il y a eu un essai d'offrir ce qu'était la culture, ça n'a pas été compris. Les gens se sont braqués, il y a eu les événements. Ça a été terrible, quoi, parce que l'oppression, mais 1988 voit la fin des événements avec la signature des accords de Matignon. Et dans cette loi référendaire qui régit le territoire, il y a la mise en place de l'Agence de développement de la culture kanak. Le centre est en cours de construction aujourd'hui. Il va s'ouvrir l'an prochain, en mai 98. Et effectivement, on peut se rendre compte que ce projet a beaucoup, pas traîné, parce que c'est un projet qui
devait mûrir aussi.
Qui devait mûrir, mais qui est un petit peu spécial. C'est un projet du président de la République. Il a un financement intégral donc de l'État français. Mais il a des règles bien précises dans sa mise en route. Donc il y a l'avant-projet, il y a toute une procédure qui a été longue à établir. Bon, le projet donc est en cours de réalisation. C'est un projet qui est en train de devenir réalité. Et donc nous sommes ici pour en parler. Et en fait, nous profitons de la venue de Merem pour le festival ici à Melbourne. Utiliser cette opportunité pour faire de la sensibilisation autour de ce projet. On est là pour promouvoir la culture, on est là pour accompagner la culture dans ses formes nouvelles d'expression, puis on est là aussi pour mener des relations avec les pays de la zone. Quand on regarde le contenu du centre culturel aujourd'hui, on réalise que c'est un centre culturel qui n'a pas tout à fait la même vocation que les centres culturels comme on pourrait les trouver en France. Où... Bon, c'est vrai qu'au départ, le centre, il est né d'un déséquilibre, l'inexistence d'une expression culturelle kanak. Donc il y a nécessité d'accompagner aujourd'hui nos groupes. Bon, on est là pour accompagner Merem, mais c'est la première fois qu'il vient en Australie. L'an dernier, on est venu avec une autre troupe parce qu'il faut accompagner.
Un centre culturel n'est pas un musée. Il faut que ce soit un projet vivant. La culture se vit, évolue et doit être accompagnée. Et le centre doit refléter les multiples vocations dont il a la charge.
Il y avait bien de la danse ou du chant traditionnel, mais l'expression moderne, ça n'existait pas. Il y a toute une série d'actions que l'on a conduites. On fait des actions au niveau patrimoine, linguistique. On fait des concours de littérature. On accueille à Nouméa des groupes. Il faut savoir que le pays il est très petit, mais il y a une multiplicité de langues avec différentes expressions. Donc on accueille les gens des îles, on accueille les Ayaé de la Grande Terre. Nous essayons d'organiser un petit peu la culture. Il y a nécessité quand même de coordonner toutes ces actions, de les planifier, de permettre que les gens puissent aujourd'hui exprimer de la culture traditionnelle ou même des choses contemporaines, mais c'est pour dire que un petit peu conforter l'idée que la culture kanak, c'est quelque chose qui doit exister, qu'il n'y a pas de honte à être kanak, que c'est une musique qui peut s'expatrier, qui peut s'exporter.
Et se vendre.
Et se vendre aussi. Avec une troupe de théâtre qui a traité le problème du viol, par exemple, mais sur la forme théâtrale. Bon, le titre, c'était « Où est le droit ?» Ça veut dire quoi ? Dans cette pièce de théâtre, il a parlé de la manière traditionnelle de régler le conflit, les deux droits qui se juxtaposent toujours. Et
dont on a l'expérience ici en Australie aussi.
Et du déséquilibre que cela a causé au niveau de la société. En fait, on mène plein d'actions. Celui qui fait du théâtre ou celui qui fait de la musique, c'est son mode d'expression. S'il sent un malaise, c'est sa manière à lui de le dire. Il y en a qui vont l'écrire. On aide aussi, on soutient beaucoup les actions en direction des écrivains. Ça, c'est quelque chose.
Il y a de nouveaux écrivains qui émergent en ce moment.
Il y en a quelques-uns. Enfin, disons que ce n'est plus du domaine des Européens. De plus en plus, les Kanaks commencent à écrire, commencent à faire des poèmes, et ça, c'est intéressant.
L'identité Kanak se forge, s'affirme, s'exprime. Elle s'ouvre sur elle-même, sur la société dans laquelle elle évolue, et sur le monde. Jean-Marie Tchibaou la voyait ainsi, ouverte et partie constituante du monde.
Aujourd'hui, quand nos jeunes ont un malaise, ils fument, ils boivent, ça c'est autre chose. J'ai conscience qu'un petit canard qui a grandi à la ville, c'est un petit étranger. S'il ne connaît pas la vie à la tribu, il a beaucoup perdu. Néanmoins, moi je sais que depuis la mise en place de la DCK, et en particulier de sa médiathèque, d'un espace où les Kanaks peuvent se retrouver, où ils peuvent se ressourcer, on a un afflux de jeunes gens qui arrivent et puis qui c'est valorisant pour eux que leur culture soit prise en compte, que ça leur donne une assise, on fait attention à eux. Il y a quelque chose qui est prévu pour eux. Alors qu'autrefois, Les références, c'était toujours les références d'ailleurs. Aujourd'hui, on leur parle de leur sapin, de leur case. Il y a des montages audiovisuels sur leur culture, sur leur conte, sur leur légende. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça.
Ils appartiennent.
Oui. Et ce que je peux dire aussi, c'est que au niveau des enseignants, bon, il faut dire aussi que en simultané, quoi, en même temps qu'il y a la mise en place de la DCK, il y a une prise de conscience au niveau des enseignants qu'il faut considérer la culture des autres. Il y a une ouverture d'esprit. Donc ils trouvent là des outils pédagogiques. Autrefois, on vient, où sont les Kanaks ? On les voit bien, mais comment ils s'expriment ? Comment ils... Il n'y avait nulle part un endroit où ils pouvaient trouver. Aujourd'hui, on trouve. Ils viennent, ils s'installent, ils font comme vous, ils écoutent, ils regardent et ils ont les renseignements. Bon, s'il n'y a pas le renseignement, on essaie de les informer, de les aiguiller vers la source. Dans le centre, quand même, dans son organisation et puis même dans les actions qui y sont menées, il y a quand même trois villages qui ont une fonction bien précise. Le premier village, c'est quoi ? C'est un endroit où tout Kanak, ce premier village, il y a trois cases. Une case que l'on appelle Kanaké, c'est là où celui qui arrive, territoire français d'Océanie, oui, mais ici c'est les Kanak. Il rentre 8 minutes, il est branché sur quelque chose et il est dans le monde Kanak. Il a des sons, il a des rites, il a des images, c'est un bain.
Il peigne.
Voilà. Parce qu'il faut le mettre dans le sujet. Il y a une case qui est à côté. Bon, on les a nommés avec des noms de chez nous parce que, voilà, il faut... Il y a une autre case qui s'appelle...
L'immersion, finalement.
Voilà, qui s'appelle Dinou. Cette case-là, elle est quoi ? Elle est la case où... je crois que c'est la plus grande. C'est la plus grande. On va y trouver dans cette case des objets du Pacifique qui nous ont été... qui vont nous être cédés à la manière traditionnelle, dans la manière traditionnelle, et qui sont là pour faire la relation entre la Nouvelle-Calédonie avec les pays du Pacifique. C'est-à-dire, nous on est des Noirs, la Mélanésie, les gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, Salomon, etc. Puis après, il y a une autre case à côté qui est un petit peu un espace où... pour lequel on a prévu la venue d'objets qui sont actuellement dans des musées européens, internationaux, enfin de par le monde, et puis que l'on a sollicité pour des dépôts.
Et que vous allez récupérer.
Et que nous allons, qui vont venir pour un temps bien défini et qui vont retourner. Mais c'est pour que ça soit quelque chose qui tourne. Parce qu'on se dit aussi que la culture kanak, c'est bien qu'elle soit présente dans tous les musées de la planète.
Le centre culturel Jean-Marie Tjibaou sera inauguré officiellement en février 1998, 10 ans après. Jean-Marie Tjibaou
survit dans les cœurs.
Oui, je pense qu'au travers de tout ce que nous faisons, il survit. Et puis je dis aussi qu'il ne faut pas que ces gens-là qui sont tombés. Bon, il y a eu lui, il y a Yewene, Luamachoro, Ataï, et puis tous les autres. C'est des gens qui sont morts parce qu'ils étaient différents. On est français aujourd'hui, mais on est d'abord Kanak. Et on est fiers d'être Kanak. Et puis on a notre... Il n'y a pas lieu de se taire sous prétexte. On ne sera jamais les Français de France.
Couple uni pour la vie, ensemble sur le chemin de l'identité kanak, Jean-Marie et Marie-Claude Tjibaou ont été séparés par la tragédie des événements.
Marie-Claude fait en sorte que la vision de Jean-Marie Tjibaou demeure et s'amplifie jusqu'à devenir la mémoire collective et l'espoir d'un avenir meilleur.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.